VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Ouagadougou, 14h à Niamey, bienvenue à notre journal. Au Burundi, le dialogue inter-burundais préconisé par le gouvernement commence en principe aujourd'hui. Mais la veille, au moins 6 cadavres ont été retrouvés à Bujumbura, la capitale, et dans la province voisine de Bujumbura rurale. Les mobiles de ces assassinats ne sont pas connus, mais parmi les victimes, un policier tué à Bujumbura. Des membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont également attendus jeudi dans la capitale pour essayer de relancer les pourparlers inclusifs entre le gouvernement et l'opposition qui sont actuellement au point mort. Plus de détails sur les violences dans le pays avec notre correspondant sur place, Christophe Nkurunziza.
Lundi, vers la fin de l'après-midi, un homme en motocyclette tire sur 3 personnes en train d'assouvir leur soif dans un bistrot situé à la 6e avenue du quartier cosmopolite de Biza. Toutes ces personnes meurent sur place, dans ce quartier où jadis toutes les ethnies et nationalités différentes se retrouvaient pour s'amuser sans peur du voisin ni du lendemain. Biza de Michopo est devenu un des endroits où les gens en armes tuent sporadiquement des innocents. La police reconnaît qu'un certain Marois, officier de la police, a été tué avec Proté Nikuriyo, directeur général chargé de ressources humaines au ministère de l'Éducation ainsi que d'un avocat, maître Emmanuel Nduimana. La police affirme que les enquêtes ont déjà commencé pour retrouver les auteurs de ce forfait. Par ailleurs, 2 autres cadavres ont été retrouvés dans la commune de Mutimbuzi en province de Bujumbura Rural. Ils ont été identifiés par les habitants de la capitale qui affirment que l'un de ces individus vivait dans les quartiers contestataires de Jabé, mais sans affiliation politique. Il avait été appelé par un ami samedi pour racheter une parcelle au sud de la capitale, mais son corps a été retrouvé assassiné dans une brousse de Muzinda dans Bujumbura Rural. Des centaines de personnes sont quotidiennement retrouvées mortes dans beaucoup de coins de la capitale. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En RCA, une épidémie de la variole du singe ou monkeypox virus s'est déclarée à Bakouma dans l'est du pays. Il s'agit de 2 enfants de 5 et 9 ans d'une famille de chasseurs. Il s'agit donc au total... 9 cas ont été hospitalisés, dont 2 décès. Pour l'heure, les autorités sanitaires ont pris des mesures préventives en vue de protéger la population. C'est la 4e épidémie de la variole du singe en RCA depuis 2001. Plus de détails avec le docteur Emmanuel Nakoun de l'Institut Pasteur de Bangui.
En tout, il y a eu 9 cas hospitalisés, dont 2 décès. Un enfant de 5 ans et le deuxième enfant âgé de 15 mois de la même famille. La variole du singe, c'est une maladie virale. Après contact avec le virus, la période d'incubation peut aller de 6 à 15 jours. Et après, ça commence comme toute maladie virale. Quand le virus passe dans la circulation, ça commence par une fièvre suivie des éruptions maculo-papuleuses, de gros boutons sur la peau. La particularité de la variole du singe, c'est qu'on a les éruptions dans les paumes de la main et les paumes des pieds. Tout le corps du malade est couvert d'éruptions. C'est une maladie très contagieuse en ce sens que le liquide contenu dans les vésicules contiennent du virus, malheureusement. Donc c'est le contact avec une personne infectée, le contact avec le liquide qui est le mode de contamination.
Docteur Emmanuel Nakoun de l'Institut Pasteur à Bangui en RCA. Au Tchad, la région de Bata, au centre du pays, regorge d'or. La découverte a été faite en fin d'année 2015 par des habitants du secteur avec l'aide de prospecteurs. Cette richesse minérale attire bien sûr des personnes de tous les horizons, mais trop souvent ils exploitent l'or de manière artisanale, une activité interdite par le gouvernement. Coup de projecteur avec notre correspondant Jamina André Kodmajingar.
L'exploitation de cette richesse qualifiée par les autochtones d'une manne naturelle se fait de façon artisanale et frauduleuse par des milliers d'orpailleurs venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Soucieux d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de minimiser les risques sanitaires et alimentaires, le gouvernement a interdit toute activité d'orpaillage dans cette localité jusqu'à nouvel ordre et l'évacuation sans délai des personnes se trouvant dans la zone. Les forces de l'ordre déployées sur le terrain ont dispersé les orpailleurs de manière violente. 8 députés de la région dénoncent à travers un mémorandum adressé adressée au gouvernement les exactions perpétrées par les forces de l'ordre sur la population. Pour le député Rakis Ahmad Saleh, l'interdiction de cette activité ne se justifie pas.
Malgré l'afflux de tout ce monde, aucun comportement déviant n'a été constaté. Comme c'est une manne du ciel, la population souhaitait que chacun tente sa chance. Nous n'avons pas compris pourquoi les militaires se sont mis à chasser, brutaliser, arracher les appareils, tout ce que vous pourrez imaginer comme comportement déviant.
Pour ces victimes que vous allez entendre, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur la population, faisant des morts d'hommes.
Nous sommes des autochtones des villages Garia et Tchaga. Notre sol est pauvre et c'est Dieu qui nous a bénis avec cette richesse. À notre grande surprise, les militaires nous ont encerclés et nous tirent dessus. 4 personnes sont tuées sur place. Moi, j'habite à Aki. J'ai travaillé sur le site seulement 2 jours et les gendarmes sont venus nous intimer lors de quitter le coin. Ils ont brûlé tous nos matériels de travail et ont ramassé nos engins à 2 et à 4 roues. Dans la panique, chacun fuit de son côté.
Le député Rakis Ahmad Saleh exige que lumière soit faite sur cette situation.
Nous prenions à témoin l'opinion nationale et internationale, les associations de défense des droits de l'homme sur les conséquences de ces drames causés par les agissements démesurés des militaires qui tirent à balles réelles sur tout ce qui bouge. Doit-on systématiquement abattre les pauvres citoyens qui triment pour gagner sa vie? Nous appelons le gouvernement à clarifier cette situation et à dédommager les victimes.
Les 8 députés de la région du Bata demandent au gouvernement de réglementer le secteur en délivrant les autorisations aux demandeurs, car, disent-ils, c'est une richesse naturelle qui pourrait aider à développer la région au même titre que le pétrole. André Kodumadjingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Sénégal, la réforme tant annoncée de la Constitution est finalement en route. Le président Macky Sall avait promis de réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Le texte a été soumis hier au Conseil constitutionnel qui a un mois pour donner son avis. Michel Joseph.
Le texte qui détaille les orientations exposées par le président lors de ses vœux de nouvel an porte sur 15 réformes, à commencer par les règles électorales ou encore l'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Selon le quotidien d'État, Le Soleil, en inscrivant dans le projet de révision la réduction du mandat en cours, Macky Sall rassure tous les Sénégalais quant à la sincérité de l'engagement qu'il a pris il y a 4 ans. Parmi les articles amendés, dont celui sur la durée du mandat présidentiel, il est précisé que cette disposition s'applique au mandat en cours et qu'il ne peut faire l'objet de révision. Élu en février 2012, pour 7 ans, le chef de l'État sénégalais s'était engagé à ramener son propre mandat de 7 à 5 ans. Un référendum pourrait être organisé d'ici le mois de mai 2016 pour déterminer si la prochaine élection présidentielle se tiendra en 2017 ou en 2019. Lors d'une rencontre avec l'Association de la presse étrangère en mars dernier, le président Sall avait expliqué vouloir donner un exemple. Il faut qu'on comprenne, en Afrique aussi, qu'on est capable de donner la leçon et que le pouvoir, ce n'est pas une fin en soi. Le Conseil constitutionnel sénégalais a été saisi et dispose en principe d'un mois pour donner un avis sur les réformes qui lui ont été soumises.
La lutte contre Boko Haram au Niger maintenant. Le gouvernement nigérien, en collaboration avec les agences de l'ONU à Niamey, essaie de répondre aux besoins de scolarisation et d'alphabétisation des déplacés originaires de la région d'Ifa. Ces déplacés ont fui des attaques meurtrières du groupe djihadiste Boko Haram. La plupart des écoles ont fermé et les enseignants ont déserté les salles de classe dans la région affectée. Depuis novembre dernier, un programme de relocalisation a permis de réinstaller près de 6000 enfants dans des endroits plus sûrs en vue de reprendre les cours. L'explication de la chef de mission de l'UNICEF à Niamey, le docteur Viviane Van Stertegem.
Alors pour le moment, il y a 77 classes provisoires qui ont été construites, mais il en faudrait presque 3 fois plus pour pouvoir vraiment répondre aux besoins de scolarisation. Pour le moment, la plupart de ces classes provisoires avec juste plastic sheeting, donc c'est plutôt des abris, mais c'est des abris quand même où il y a des enseignants pour enseigner. Le matériel pédagogique est en train d'arriver, et également le minimum de mobilier nécessaire pour faire fonctionner une place de manière effective. Donc en gros, les conditions sont assez rudimentaires pour le moment pour les adolescents.
Le docteur Viviane Van Sterteghem joint à Niamey au Niger. Et pour terminer, en Libye voisine, le gouvernement d'union nationale a été formé aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé l'ONU en précisant qu'il est composé de 32 ministres. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.